En tant que chrétien, nous prêchons la grâce. Ça me semble être le message qui est au cœur de notre prédication. Pourtant, quelque chose qui m'étonnera toujours, c'est de voir combien, en tant que prédicateur de la grâce, nous sommes prompts au jugement. Jusque dans nos prédications du dimanche matin. Si je dis pharisien, que pensez-vous ? Pourtant, les seuls pharisiens aujourd'hui se trouvent dans les églises. Si je dis « peuple d'Israël face au Jourdain », nous sommes nombreux à nous demander franchement pourquoi ces gens ont préféré aller passer 40 ans à tourner dans le désert plutôt qu'à traverser ce fleuve, à rentrer dans ce pays promis et à saisir les promesses de Dieu. Pourtant, regardons-y de plus près. Ce n'est pas à Dieu que le peuple d'Israël abandonne au Jourdain. Ce n'est pas Dieu qui est rejeté. Ce que le peuple d'Israël fait à ce moment-là, c'est dire à Dieu, on veut bien de toi comme Dieu, on te garde comme Dieu, mais traverser le Jourdain, là tu nous en demandes un peu trop. Aller conquérir ce pays, ça nous fait un peu peur. Donc on va te garder comme Dieu, on va pas aller jusqu'au bout quand même, parce que là tu nous demandes quelque chose qui dépasse ce qui est possible pour nous. Et finalement, n'est-ce pas notre comportement à tous ? Et nous qui sommes souvent prompts à dire « Ah, mais ils n'ont pas eu confiance, ah, mais ils n'ont pas fait ceci », ne sommes-nous pas en train de répéter le même schéma dans notre vie ? L'auteur de l'Épître aux Hébreux aime nous mettre face à ce genre de contradiction et nous démontrer que nous sommes souvent semblables à ce peuple qui n'a pas abandonné Dieu, mais qui a préféré errer sous tente pendant 40 ans dans le désert plutôt que d'affronter ce qui lui faisait peur en comptant sur la présence de Dieu pour l'en délivrer. Et je pense que nous aussi, malgré notre spiritualité, nous hésitons souvent à entrer dans ce que Dieu veut nous donner. Nous hésitons à entrer dans le repos de Dieu. Et c'est souvent parce que, comme le peuple d'Israël, nous avons peur de nous abandonner totalement à lui. Nous voulons garder le contrôle de notre vie et nous croyons savoir mieux que Dieu là où nous devrions nous trouver. Il y a pourtant une promesse et une richesse à saisir. Après avoir lu l'interpellation de la lettre aux Hébreux et un psaume, je tenterai modestement alors de tracer quelques pistes pour nous y conduire. Comment entrer dans ce repos de Dieu ? Parce que ce pays promis, c'est aussi le pays du repos que Dieu avait promis à Israël. J'espère que j'arriverai sur ce chemin-là, ne pas tomber dans le pharisaïsme et éviter la moralisation ou la culpabilisation gratuite. Lisons donc dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, les versets 1 à 7. Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve coupable d'être resté en arrière. Car nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. En effet, c'est nous qui croyons qui entrons dans ce repos, conformément à la parole de Dieu quand il a dit « C'est pourquoi dans ma colère je fais ce serment, ils n'entreront pas dans mon repos ». C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour « Et Dieu se reposa le septième jour de tout son travail ». Et dans notre texte, il dit « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans ce repos. Or, ceux qui ont les premiers entendu cette bonne nouvelle n'y sont pas entrés parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, qu'il appelle « aujourd'hui », lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David ces paroles déjà citées « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas ». Ce repos annoncé par Dieu pour ceux qui osent le pas de la confiance et de l'abandon me semble approprié à ce temps d'ouverture des vacances. S'il y a bien une époque de l'année où nous aspirons au repos, c'est celle-ci. Et ce qui me frappe, c'est que même dans la génération de mes parents, qui ne travaillent plus, ils aspirent aussi aux vacances. Vacances étant vraiment synonyme de repos, étant synonyme d'une rupture dans leur quotidien, dans leur rythme. Comme quoi les vacances ne sont pas nécessairement associées au travail. Nous aspirons après le repos, mais souvent, comme le chantait ou le chante toujours Mylène Farmer, notre génération désenchantée ne trouve de repos que dans l'indifférence. Indifférence qui isole et qui attriste. Se coupe de tout, que plus rien ne vienne interférer avec ce que nous vivons, et on se repose. Il faut alors trouver, me semble-t-il, des moyens pour sortir de cette indifférence, pour reprendre pied, pour se relancer. Et la contemplation de la création est un de ces moyens, comme nous y invite le psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui, tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, et tous les oiseaux dans les airs, et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, il nous faut bien avouer que le repos nous est souvent étranger. Combien de pensées agitées, tourmentées, de stress, de projections dans l'avenir, de regrets du passé, qui viennent nous secouer même quand notre corps semble en repos. Oui, nous aspirons tous à un véritable repos. Ce matin, à travers la méditation de ta parole, nous te prions que ton esprit puisse nous guider à en saisir au moins une partie. Amen. Vive les vacances, plus de pénitence, les cahiers au feu et le prof au milieu. Vous avez certainement, du temps de votre enfance, chanté cette rengaine ou une autre du même type. Et si cela fait comme moi bien longtemps que vous avez quitté l'école, voire peut-être pour certains le travail, la rengaine est toujours valable. Vive les vacances. Que vous soyez juilletiste ou haussien, les vacances sont de plus en plus attendues, désirées, souhaitées, rêvées, parce que la crise financière ne fait que les rendre plus désirables. Plus de bureaux, plus de briefings, plus de rendez-vous, plus de chefs sur le dos, plus de collègues impossibles, plus de réunions de soir, plus de contraintes journalières et d'impératifs à tenir, plus de cadences de production impossibles à suivre. Ouf, on s'évade pour se consacrer aux siens et aux joies des congés. Et voilà donc que s'ouvre devant nous le temps des vacances. Ce temps où nous avons enfin l'occasion de faire ce que nous ne faisons pas le reste de l'année. Autre chose que d'habitude. Plusieurs options s'offrent alors à nous. Rattraper le retard pris pendant l'année dans les travaux, le rangement ou les études. Passer 24 heures sur 24 avec les enfants au point de les pourrir et de les lasser, mais que voulez-vous, pendant l'année, c'est maximum une demi-heure si je fais pas des heures sup. Partir pour un plan plage, faire niente et ne rien faire. Surtout, ne rien faire. Reste alors pour ceux qui en ont les moyens, les voyages, la découverte d'autres pays, etc. Les vacances résonnent pour beaucoup d'entre nous comme un champ libérateur du quotidien aliénant, à tel point que l'on se demande parfois s'il n'y aurait pas dans notre mode de vie un côté absurde à perdre sa vie pour la gagner, ou plutôt à perdre sa vie pour gagner des vacances. Si j'ai commencé par une rengaine enfantine, c'est parce que les vacances réveillent souvent l'enfant qui sommeille encore et toujours en chacun de nous. Cela se traduit dans l'excitation des préparatifs, la joie du départ, la douce euphorie qui nous saisit, et n'est pas rare de voir papa faire des châteaux de sable sur la plage avec les petits pendant que maman se remet au patin à roulettes avec la petite dernière, en espérant que ça ne se termine pas à l'hosto. Mais ne boudons pas notre plaisir. Sans tomber dans l'infantilisme, l'enfantillage peut parfois nous faire un bien fou. Comme le disait une publicité célèbre, il nous permet de retrouver le goût des choses simples. Et même dans l'habillement, on le voit, le costume cravate étouffant va laisser place aux shorts, aux t-shirts et sandalettes, et personne n'y trouvera à redire. Les vacances ont donc pris une place de plus en plus grande dans notre culture, notre société, notre économie, à tel point qu'on en oublie, bien vite, que les premiers congés payés en Belgique datent de 1936. Et qu'à l'époque, c'était pas 20 jours légaux égale 4 fois 5 jours égale 4 semaines qu'on devait vous donner, mais 6 jours légaux égale une semaine, parce qu'on travaillait 6 jours à l'époque, 48 heures semaine. Un autre temps. Et c'est bien parce qu'il s'agit d'un autre temps que la Bible ne dit rien à propos des vacances. Cherchez le terme « vacances » tel que nous l'utilisons dans la Bible, vous ne le trouverez pas. Parce qu'à l'époque où elle a été écrite, les congés payés n'avaient pas encore été inventés. Dieu serait-il donc alors un stakhanoviste de la productivité? Pas vraiment, puisque la Bible nous dit que le septième jour, Dieu se reposa. Et pour celui qui sait lire ce texte, nous sommes toujours dans ce septième jour. Dieu a achevé sa création et il se repose. Oui, si la Bible ne parle pas de vacances, peut-être parce qu'elle préfère privilégier le sens de la vie de l'homme sans rupture, elle nous parle de repos. Elle nous en parle même si bien qu'un septième de notre vie, au minimum, est censé y être consacré. Et c'est ce qu'elle appelle le sabbat. Et donc, si la Bible appelle sabbat le repos, c'est peut-être parce que justement de ce repos, elle n'en fait pas rien. C'est peut-être parce qu'il y a une spiritualité du repos. Car si Dieu s'est reposé de ses œuvres, si Dieu est dans son jour de repos, avouons-le, heureusement, il n'est pas parti en vacances. Il faut en effet se rappeler que le terme « vacances » vient de « vacant », ce qui signifie « absent », « vide », « oisif ». Une place est « vacante » quand il n'y a personne pour l'occuper. Quand on n'en fait rien. Ben voyons, direz-vous. Il fallait bien que quelqu'un mette son grain de sel dans l'histoire. Et c'est bien le rôle des prédicateurs que de venir jeter un peu de culpabilisation à bon marché dans cet océan de quiétude, un nuage noir sur le ciel bleu de notre enthousiasme vacancier. Eh bien non, justement. Les vacances, il en faut. Prenez-en. Mais n'en faites pas un temps de vide. N'en faites pas un temps rempli de rien. Faites-en un temps de repos, ce qui quand même est nettement différent. Parce que si je comprends bien ce que la Bible appelle le repos inclut l'idée de présence, présence au monde, présence à soi, présence à Dieu. Commençons par la présence à Dieu. Ce temps de repos nous enlève toutes nos mauvaises excuses, celles que nous utilisons pour ne pas prier, ne pas lire la Bible, ne pas aller à l'église, ne pas se mettre devant Dieu, ne pas prendre le temps avec Dieu, parce que justement l'excuse que nous présentons, c'est que j'ai pas le temps. Si l'habitude de tout cela a été prise pendant l'année, tant mieux, continuons-la de façon reposante, sans stress, sans pression. Prions, méditons la Bible, pourquoi pas en pleine nature ou avec les enfants. Beaucoup plus dangereux pour certains, voire pour beaucoup d'entre nous, tentons l'expérience, si nous sommes mariés, avec notre conjoint. Ce temps sans stress favorisera peut-être l'échange à ce niveau-là aussi. Et si l'habitude n'a pas été prise, voilà justement un des changements reposants que l'on peut tenter. Qui sait si cela ne deviendra pas une habitude ? Si nous partons en vacances, souvenons-nous que Dieu, lui, n'est jamais vacant. Il n'est jamais absent de notre vie. Il est avec nous, par l'Esprit en Jésus-Christ, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bien plus, le véritable repos se trouvera en lui, parce qu'il est le seul chez qui nous pouvons abandonner notre vie sans nous en soucier, sans nous en inquiéter. Le seul qui, par sa façon d'être présent en notre vie, va nous prodiguer le véritable repos. Partout ailleurs, nous sommes en désir de contrôle. Nous sommes en crainte parce que nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais chez Dieu, c'est le seul endroit où nous pouvons vraiment nous reposer, vraiment tout lâcher. Parce que nous savons que nous déposons notre vie dans les mains de quelqu'un qui veut en prendre soin. Dans les mains de quelqu'un qui nous permettra d'être simplement. Dans les mains de quelqu'un qui nous dit « Tu as le droit d'être ». C'est ce que n'a pas perçu le peuple d'Israël de l'ancienne alliance à de multiples reprises. Il n'a pas réussi à se reposer en Dieu. Il a voulu contrôler et gérer sa vie, comme nous le faisons régulièrement. C'est ce qui se passe au Jourdain, c'est ce qui se passe encore plus tard dans le désert avec le veau d'or. Quand le peuple d'Israël se construit le veau d'or, il ne dit pas « il y en a marre, on veut pas de ce Dieu-là, on va s'en faire un autre ». Quelle est la phrase prononcée par le peuple quand le veau d'or est coulé ? « Voici ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte ». On veut le même Dieu, mais juste on le rapte ici pour pouvoir le contrôler, le gérer à notre sauce. Ce n'est pas un rejet total de Dieu, c'est une diminution de Dieu. Ce n'est pas un rejet de Dieu, c'est un rejet de l'abandon de mon propre contrôle. Et de ce fait, parce qu'il a voulu tout contrôler et tout gérer, le peuple d'Israël sombre dans l'inquiétude, dans les mauvais dérivatifs, dans les citernes crevassées. Pour soulager cette inquiétude face aux aléas de la vie et la peur de ne pas arriver à exister qui en découle. Au lieu d'aller à la source d'eau vive, c'est ça ma soif, c'est ça dont j'ai besoin, je vais boire là, ah ben non, je vais me fabriquer ma citerne. Évidemment, elle a des fuites, parce que c'est moi qui l'ai fabriquée. Et je passe ma vie à essayer de la remplir par autre chose, par des tas de choses, des tas de réussites, mais qui finalement sont insatisfaisantes. Et Dieu me dit, mais viens là, j'ai la source. Non, ça va, je me débrouille tout seul, je contrôle, je maîtrise, moi. Et je reste avec mes citernes crevassées. Présence à Dieu, présence au monde ensuite. Cela ne veut pas nécessairement dire s'épuiser dans l'aide sociale, la militance, la relation d'aide. Il suffit simplement de retrouver le plaisir de regarder autrement, d'admirer, de contempler, de s'émerveiller. Quelque chose qui me passionne toujours chez les jeunes enfants, c'est cette capacité à l'émerveillement. Mon dernier n'a pas encore 10 ans, Il me surprend encore en rentrant de l'école où d'avoir été choisi. Papa, c'est merveilleux!
Oui, bon, il y avait un escargot sur la route.
L'enfant, lui, s'en émerveille toujours. Il voit ce que souvent l'adulte ne voit plus. L'enfant va pouvoir regarder une fourmilière pendant des heures, suivre à quatre pattes un scarabée, collectionner les cailloux parce que ce sont les plus beaux du monde, ou attendre patiemment sur le dos qu'une étoile filante veuille bien traverser le ciel qu'il regarde. On retrouve là l'appel du psalmiste pour chacun d'entre nous. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu créas, Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. La redécouverte du monde conduit à redécouvrir le Créateur, à s'étonner et s'émerveiller encore de sa grâce et de sa grandeur. Et on peut ainsi coucher dans l'herbe et le nez en l'air, rendre un culte merveilleux à Dieu. Et cela peut être un vrai bonheur. Et dans cette situation, le chrétien cultive un avantage extraordinaire. Là où le non-croyant pourra simplement dire, je l'ai déjà beaucoup, c'est beau, le chrétien, lui, ne demeurera pas perplexe face à la beauté d'un brin d'herbe, d'un paysage ou de l'univers. Derrière ce qu'il voit, derrière cette beauté, il a quelqu'un à remercier et à adorer. Présence à soi, enfin. Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? En règle générale, la réponse à ces questions paraît évidente toute l'année. Je suis ce que je fais, je vais là où je le fais, et je fais ce que je fais pour le mettre sur l'étagère. Autrement dit, nos multiples tâches, imposées ou choisies, remplissent tellement notre quotidien que nous courons de l'une à l'autre sans nous poser la question de leur portée, de leur sens, ni même souvent de leur nécessité. C'est comme ça. Le temps de repos, le temps des vacances, permet de poser toutes ces activités pour les remettre en perspective, pour les réévaluer. Nous n'allons pas supprimer le côté aliénant du travail. Si le travail est une bénédiction, il demeure aussi que dans le monde dans lequel nous sommes, il a été rendu difficile et pénible. Et ces questions-là ne vont pas enlever cette pénibilité. Il n'empêche qu'il y a des questions qui me semblent que nous fouillons à longueur d'année et que le temps de repos nous permet de nous poser. Et nous les fouillons en remplissant notre temps de travail et de loisirs. C'est Blaise Pascal qui a un jour dit quelque chose du genre « L'homme a tellement peur de la mort qu'il a inventé le loisir pour remplir son temps et ne plus y penser. » Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Je ne suis pas d'abord docteur, enseignant, maçon, peintre, électricien. C'est pas moi, ça, c'est pas une définition de moi. C'est toujours frappant quand on se rend compte. Bonjour, et vous êtes qui? Ah ben, moi, je suis électricien. Ah, est-ce que ça me définit? Non, c'est mon occupation, c'est mon métier, c'est mon travail. Mais est-ce que ça définit qui je suis? Bien sûr que non. Je ne le souhaite pour personne. Qui suis-je vraiment? C'est-à-dire, qui suis-je dans mon rapport à Dieu et aux autres? Comment est-ce que je le vis? Quelles sont les priorités de ma vie? Non pas celles que je mets sur papier et que je voudrais déclarer comme ça, mais quelles sont les priorités que révèle ma vie, que révèle ma manière de vivre? Est-ce ma carrière? Vous savez, ces gens qui vous disent « Ah non, mais pour moi, la famille, c'est capital, c'est primordial, c'est très important. » Mais ils bossent 14 heures par jour Quand on leur propose une place à l'autre bout du monde pour gagner un échelon dans les hiérarchies, ce qui veut dire que les enfants doivent être délocalisés, aller dans des écoles, ils comprennent rien, on y va, mais la priorité c'est la famille. Je me pose parfois des questions. Je me pose des questions sur mes priorités aussi, quand je m'arrête et que je regarde ma vie, je me dis, ah, t'as fonctionné comme ça. Est-ce que ça révèle vraiment les priorités que tu déclares avoir dans ta vie? Est-ce ma carrière, mon argent, mon plaisir? Ma famille? Et une fois que j'ai identifié ces priorités, je peux me poser la question, est-ce qu'elles sont bien choisies? Est-ce que ce sont les bonnes priorités? Y a-t-il moyen de résister au côté aliénant de notre société de consommation pour réorienter quelque peu ma vie vers quelque chose de plus juste, vers quelque chose de plus vrai? De connecter à Dieu et aux autres. Y a-t-il moyen de plus orienter mon existence selon le véritable sens de la vie? Il y a aussi une question que je porte. On entend souvent dire « j'aime ou j'aime pas ma vie ». J'apprécie ou j'apprécie pas la vie que je mène. Mais ne serait-ce pas là une attitude de consommateur? J'aime ou j'aime pas ma voiture, j'aime ou j'aime pas le plat que j'ai reçu au restaurant. Je consomme ma vie et le produit me plaît plus ou moins. Ma vie ne serait-elle alors qu'un bien de consommation? Ou bien n'est-elle pas quelque chose qui m'a été donné, dont je suis responsable en partie, dont je ne maîtrise pas tous les éléments, et à nouveau on revient dans cette remise en question de notre contrôle absolu que nous voulons absolument. Qu'est-ce qui a fait que je suis né ici plutôt qu'en Inde, à Madagascar ou au Togo? J'ai pas contrôlé ça, que je suis né au XXe siècle et pas au XVe, au même endroit. J'ai pas contrôlé ça non plus. Voilà tous des éléments qui m'ont été donnés, que j'ai là, que je porte, et dont je suis responsable. Qu'est-ce que j'en fais? Que pense Dieu de ma vie? Comment la trouve-t-il? Qu'a-t-il en réserve pour moi? Comment souhaite-t-il me voir évoluer? Vous savez que dans l'Évangile, le terme le plus utilisé pour parler des disciples de Jésus, c'est pas chrétien, beaucoup plus tard dans le livre des Actes, il nous est signalé que c'est là qu'on a commencé à appeler les disciples de Jésus des chrétiens. C'est pas disciple non plus. C'est ceux qui suivaient le Christ. Ceux qui marchaient derrière le Christ. Ce sont toutes ces expressions-là qui sont utilisées le plus souvent. Le christianisme, c'est une spiritualité en mouvement. C'est pas un « Jésus est mort pour moi, je suis sauvé, amen, on ferme la porte, terminé, c'est réglé. » C'est justement « on a ouvert la porte ». Et maintenant on sort, et maintenant on marche avec le Christ. Et maintenant justement, il y a ce fleuve d'eau vive qui coule et qui est censé m'emporter, me faire avancer, me faire évoluer. Et je l'avoue, parfois je m'endors, parfois je m'arrête, je suis bien accroché sur la berge là, l'eau est douce, et j'avance plus. Et je laisse plus Dieu comme ça prendre ce contrôle de ma vie et m'amener plus loin. Le temps du repos nous donne certainement l'occasion de telles interrogations. Attention, je ne suis pas en train de vous inviter à faire de vos vacances une retraite monacale. Et non plus, ne vous lancez pas dans une sorte de marathon introspectif où on se pose toutes ces questions-là en même temps. C'est le meilleur moyen de ne s'en poser aucune et d'arriver à répondre à rien. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en poser quelques-unes. La Bible nous dit que le véritable repos est celui que procure la paix de Dieu. Un repos dans lequel je suis invité à m'efforcer d'entrer. Et j'ai bien dit m'efforcer d'entrer. Le peuple d'Israël face au Jourdain devait s'efforcer d'entrer dans le pays promis. Et le peuple d'Israël a dit non, non, ça on maîtrise pas, ça on contrôle pas, le désert. Ça va, ça. « C'est pas évident. J'ai pas la clé. Vous avez vu, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Mais est-ce que parfois je ne choisis pas tout simplement de retourner dans mes déserts et de tourner en rond avec ma tante, avec mes petites sécurités, et dire à Dieu, oui, fou, tu m'as promis des choses, là c'est génial, on verra plus tard. J'y vais pas maintenant parce que je maîtrise pas. Oui, il faut m'efforcer d'entrer dans ce repos. L'errance, c'est être hors de soi. C'est être sans lieu où se poser, où se reposer. Le repos, c'est être chez soi. Le lieu de l'être humain, il est en Dieu. Le poisson a été créé pour vivre dans l'eau. Il naît libre, serein, en paix, et ne trouve du repos que dans l'eau. L'élément vital de l'homme, celui pour lequel il a été créé, c'est la présence de Dieu, c'est la proximité avec Dieu, c'est la dépendance, c'est un mot qu'on n'aime pas, et pourtant, c'est la dépendance de Dieu. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous expérimentons la vie dans son intimité, plus nous sommes libres, plus nous sommes sereins, plus nous sommes en paix, plus nous sommes dans le repos. Que cette période estivale soit pour chacun de nous l'occasion d'un ressourcement, d'un repos ou d'un sabbat, appelez-le comme vous voulez, mais surtout un temps propice à nous faire redécouvrir combien Dieu est fidèle, combien Dieu est présent dans notre vie, combien il donne. Alors oui, vive les vacances, mais que ces vacances ne soient pas un temps vacant, un temps vide. Que vive surtout notre reconnaissance et notre adoration, que vive notre perception de Dieu et de sa volonté pour nous, et que tout cela rayonne autour de nous pour le plus grand bénéfice de ceux qui nous entourent. Amen.